contrairement à la légende, elle n'était pas simplement une brave femme de ménage qui rentrait chez elle harassée par une journée de travail. Elle était une militante déterminée du NAACP, l'association qui défendait les gens de couleur, comme on disait à l'époque, et qui s'est donc préparée relativement à des actions de ce type-là. Elle ne pouvait pas savoir, bien entendu, qu'est-ce qui viendrait après. Mais le geste lui-même, c'était conçu dans une préparation. Préparation qui avait commencé à partir du début de la ségrégation scolaire en 1954. Ce qui a déclenché un peu plus, c'est que la NAACP de Montgomery n'avait pas de leader important. Et donc, elle a fait appel pour les soutenir à un jeune pasteur qui venait d'être nommé à Montgomery il y avait très peu de mois, qui était Martin Luther King. Et Martin Luther King est devenu à ce moment-là le porte-parole du mouvement de Montgomery.
Est-ce qu'on peut rappeler dans quel secteur s'appliquait l'apartheid dans les États du Sud ?
La ségrégation raciale s'appliquait dans tous les secteurs de la vie sociale dans le Sud, avec des modalités un peu différentes d'un État à l'autre, mais toutes la pratiquaient, c'est-à-dire il y avait à la fois des restaurants qui étaient réservés aux uns et aux autres, ça, les toilettes publiques étaient réservées aux uns et aux autres, tout était absolument ségrégué, tout. Les écoles, les cimetières, bien entendu, tout ce qui était la vie sociale étaient séparés en deux.
Alors on sait que la situation était incandescente dans les années 50. La lutte pour l'égalité a été dure.
C'est une lutte qui s'est faite durement parce qu'il y a eu un assez grand nombre de militants des droits civiques qui ont été assassinés dans le Sud en 63, en 64, en 65, etc. Oui, ça ne s'est pas fait comme facilement. Et d'autre part, les grandes manifestations, entre autres organisées par Martin Luther King, étaient consciemment des manifestations non violentes, mais volontairement décidé dans des lieux où la violence pouvait arriver. C'est-à-dire que Martin Luther King choisissait des villes comme Birmingham, où le chef de police était reconnu pour sa brutalité, pour lancer une manifestation, pour le provoquer en quelque sorte. Il y arrivait à ce moment-là, le chef de police commence à péter les plombs et charge, tape sur les enfants, tape sur les femmes, et à ce moment-là, ça va beaucoup moins bien, bien sûr.
Et comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à l'abolition de la ségrégation ? Comment cela s'est-il fait ?
Ça s'est fait d'une part sous la pression des groupes de militants et des droits civiques dans beaucoup de villes du Sud, qui a abouti ensuite à une législation multiple, des lois successives qui ont peu à peu supprimé légalement la ségrégation. Et ensuite, il est resté à l'appliquer dans le détail du Sud, bien sûr.
Alors, les tabous sont tombés, mais la question raciale est encore très sensible aux États-Unis.
C'est ça un peu le drame de Martin Luther King à la fin. C'est-à-dire qu'il est relativement facile d'obtenir des lois et des forces de police éventuellement pour supprimer la ségrégation. Il est beaucoup plus difficile d'investir énormément d'argent pendant une période assez longue pour restaurer la vie sociale et culturelle dans une cité. Ce qui a été accompli néanmoins dans les années 54, 64, 65 est énorme, puisque dans le fond ça a quand même supprimé un système de ségrégation raciale qui était enraciné depuis un siècle. Aujourd'hui vous avez quand même beaucoup de Noirs qui sont dans le Sud, maires, shérifs, d'autres qui sont présents dans la télévision ou à la radio et tout. Il y a des progrès énormes ont été accomplis. Il faut voir le niveau de la situation telle qu'elle était au moment où Rosa Parks a commencé son action. Qu'est-ce que c'était que le Sud ? Qu'est-ce que c'était que les États-Unis à cette époque-là ?